Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie qui se propose dans cette émission d'évoquer l'histoire de la préhistoire. Il fut un temps, c'était après la Révolution française, où chacun pouvait s'improviser archéologue, chercheur, fouilleur, préhistorien, car l'archéologie en ce qui concerne la préhistoire a mis longtemps à s'organiser. Et c'est le mérite du livre de mon invité, Arnaud Hurel, « La France préhistorienne », paru aux éditions du CNRS, CNRS édition, de raconter le parcours de la préhistoire en France. Arnaud Hurel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de paléontologie humaine du Muséum national d'histoire naturelle et vous êtes en quelque sorte l'historien de la préhistoire. Ça veut dire vous côtoyez les grands préhistoriens et vous les croquez sur vos notes.
Vous allez flatter là, grands préhistoriens. Je ne suis pas à même de les juger, mais j'ai la chance d'évoluer dans mon milieu d'études. Je suis au contact des préhistoriens. Je suis, ce que j'aime à dire, une espèce d'incongruité, un historien au milieu des préhistoriens. Quelque chose qui est tout à fait classique chez les anglo-saxons, en réalité, c'est-à-dire que le scientifique, science expérimentale, est au contact en permanence du scientifique, science sociale ou science humaine, et confronte en permanence son parcours, ses analyses et concepts avec une analyse un peu extérieure. C'est un petit peu comme le concessionnaire automobile qui vend les voitures, mais le contrôle technique est fait par quelqu'un d'autre. Et là, c'est un petit peu la même chose. Donc voilà, le Muséum national d'histoire naturelle, en fait, qui m'accueille, puisque je dépends du département de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle, qui a deux implantations à Paris, l'une au Musée de l'Homme et l'autre à l'Institut de paléontologie humaine. Voilà.
On s'y retrouve un peu difficilement dans tous ces organismes, mais vous allez certainement nous éclairer. En tout cas, dans votre livre, La France préhistorienne, la première surprise, c'est de découvrir que, au fond, il n'y avait, et pas avant 1941 ou 42, aucune organisation de l'État pour organiser les fouilles, pour préserver les chantiers, c'est-à-dire tout le monde pouvait se servir. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de démolisseurs, justement ?
Parler de démolisseurs, c'est presque faire le péché des péchés, l'anachronisme pour l'historien. Donc, démolisseurs, je ne sais pas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la France a vécu pendant plus d'un siècle et demi sous un régime tout de même très particulier, qui est celui du laisser-faire. Contrairement à d'autres pays, en particulier en Europe, mais également aux États-Unis, ou autour du pourtour méditerranéen, il n'y avait pas de réglementation sur les fouilles archéologiques, c'est-à-dire qu'effectivement, chacun pouvait fouiller comme il l'entendait, de la façon plus ou moins scientifique qu'il comptait mettre à son travail, en fonction de son temps et de son argent. Ce livre, en fait, a pour objectif d'essayer de comprendre pourquoi la France est restée aussi longtemps en retard, puisque les pays scandinaves, par exemple, ont adopté dès le début du XIXe siècle une législation sur l'archéologie. Même les États, certains États des États-Unis ont adopté très tôt des législations sur l'archéologie indienne. Et Dieu sait si on sait ce que les nations indiennes ont pu subir tout au long du XIXe siècle. Et la France a conservé ce régime du laisser-faire pendant très très longtemps.
On a en effet découvert un paradoxe dans votre livre, c'est que les préhistoriens, en même temps, voulaient qu'on reconnaisse leur science et leur discipline et leur travail, mais ils voulaient aussi rester libres et autonomes. C'est-à-dire qu'ils avaient envie d'une réglementation, mais pas trop quand même, non ? C'est pas ça ?
C'est exactement cela. Je crois en plus que l'étude de ce phénomène est un indice pour mieux comprendre ce qu'était la société du 19e siècle et jusqu'à la fin de la Troisième République. On vit aujourd'hui dans un monde très normé, normalisé, avec des strates plus ou moins importantes de réglementation, de législation. Et là, on découvre finalement que cette société française a d'abord été une société fondée sur la liberté d'entreprendre, sur la liberté d'initiative donc, mais aussi la propriété privée, qui est le fondement même de cette société. C'est une espèce de préhistoire de l'histoire contemporaine que l'on découvre à travers cette étude de la communauté des préhistoriens. Et c'est vrai que ces préhistoriens avaient pour principal moteur le plaisir, la soif d'apprendre, la découverte, et ça c'est tout de même un moteur formidable. C'est peut-être ce qui manque un peu maintenant, mais c'était le moteur essentiel. Donc, découvrir par soi-même, passer du temps, y consacrer son argent, impliquer évidemment un certain nombre de conséquences, c'est-à-dire qu'il faut imaginer notre préhistorien Déjà, il faut savoir que notre préhistorien n'a pas de formation académique.
Oui, c'est ça. Il n'y avait aucun institut qui délivrait une formation.
Exactement.
Déjà.
Nous avons, nous, des étudiants en master, c'est-à-dire au niveau maîtrise, troisième cycle, des étudiants en thèse qui préparent des doctorats de préhistoire, de telle ou telle discipline dépendant de la préhistoire, mais le premier doctorat d'État sur un sujet de préhistoire date de 1948, ce qui est tout à fait récent. Donc, il faut imaginer que nos préhistoriens sont seuls, toujours seuls, c'est-à-dire qu'ils sont seuls à louer ou acheter un terrain, seuls à mener leurs fouilles. Et ensuite, il y a quelques moments dans leur vie scientifique, ils vont pouvoir confronter avec leurs collègues et non moins amis, confronter leurs découvertes. Ce sont les congrès, ce sont les associations savantes locales. Et c'est le moment où finalement on va présenter ce que l'on a découvert, rarement la façon dont on l'a découvert, et puis on va apprendre au contact des autres. C'est assez empirique, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est ce qui explique finalement, d'une part, le fait qu'il y ait énormément de découvertes. Beaucoup de gens peuvent du jour au lendemain se mettre à gratter au fond de leur jardin ou au contraire, s'ils ont un peu d'argent, louer un terrain immense dans le Périgord sur les bords de la Vézère. Donc il y a véritablement une émulation, il y a une vraie concurrence, donc beaucoup de découvertes, mais parfois, peut-être une certaine précipitation dans le travail parce que, évidemment, c'est en fonction de son temps de loisir, en fonction des ressources dont on dispose, qu'on peut mener les fouilles. Alors, est-ce qu'il faut regarder ce travail avec les yeux de 2008 en se disant « Ah, quel gâchis !» Oui, peut-être, pour un préhistorien, mais l'historien en tant que tel n'a pas apporté ce type de regard. Il est obligé de faire avec, si possible, le regard de l'époque et comprendre quels étaient les outils et quels étaient les questionnements qui s'imposaient aux préhistoriens.
Néanmoins, est-ce que l'empereur Napoléon III n'a pas essayé d'organiser, enfin je dis l'empereur parce que c'est sous son règne que certains décrets, certains musées se sont constitués, est-ce qu'il y a eu là un progrès par rapport à la période post-révolutionnaire ?
Effectivement, oui, il y a un début d'institutionnalisation. Quel en est le moteur là en l'espèce ? C'est l'intérêt que porte Napoléon III lui-même au passé de la France, à l'archéologie gauloise, romaine, qui finalement l'amène à créer un certain nombre d'institutions, alors que ce soit d'une part le Musée d'Antiquité Nationale, donc qui est créé en 1862, donc qui est à Saint-Germain-en-Laye,
oui,
qui a changé de nom récemment, qui est maintenant le Musée d'Archéologie Nationale.
Mais qui ne va pas tellement plus loin que les Gallo-Romains, un peu les mégalithes quand même, ou est-ce qu'il est préhistorique véritablement ?
Non, enfin, il est préhistorique, on va dire qu'il est préhistorique. Maintenant, il est très orienté à âge du bronze, âge du fer, mais il y a eu pendant très longtemps des galeries importantes du Paléolithique. Donc, d'un point de vue institutionnel, il y a évidemment ce musée. Et puis, il y a aussi les grandes enquêtes qui sont lancées dans le pays, en particulier la Commission pour la topographie des Gaules, qui avait pour objectif premier de confirmer, de valider les intuitions de l'empereur, et finalement a rendu une copie qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'attendait l'empereur, et donc lui a fixé d'autres objectifs. Et finalement, après avoir travaillé sur les voies romaines, a commencé à s'intéresser aux mégalithes, à essayer de dresser un inventaire, essayer de lancer un grand questionnaire à travers le pays, une grande enquête pour essayer de déterminer les gisements paléolithiques. Et donc, on a toute une armée de bénévoles, le curé, l'instituteur, le pharmacien, qui vont répondre chacun de leur coin, vont faire l'inventaire des collections, vont faire l'inventaire des sites connus, vont faire l'inventaire, y compris des superstitions locales qui peuvent être attachées à des mégalithes en particulier. Donc, la Rechauffer, la table de Gargantua qu'on trouve un petit peu partout en France. Voilà, donc il y a un double mouvement à cette époque. De fait, Napoléon III a un rôle très important. Que nous reste-t-il de cette époque, mis à part le musée, qui a changé de nom ? Il ne nous reste pas grand-chose, en fait. L'enquête qui avait été lancée par lui était tellement lourde à gérer. Les commissions successives qui ont essayé d'analyser le produit tellement riche de cette enquête, on baissait les bras très rapidement. Un dictionnaire devait sortir avec des centaines, voire des milliers d'entrées. Le premier tome est sorti laborieusement, en une dizaine ou une quinzaine d'années, je crois. Et le dernier tome, donc sachant que la commission a été créée en 1858, le dernier tome est sorti après la Première Guerre mondiale. Évidemment, il était complètement dépassé. Il a une valeur historique, c'est-à-dire que maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quels sites ont été retenus plutôt que d'autres, quel était le caractère discriminant, et puis voir qui a répondu et comment les gens ont répondu.
C'est peut-être le moment, Arnaud Hurel, de citer deux académiciens parmi ceux qui se sont intéressés à la préhistoire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Alfred Maury et Alexandre Bertrand, respectivement élus en 1857 et 1881, parce qu'ils ont présenté justement devant l'Académie, dans une séance en 1862, un inventaire et une carte des monuments mégalithiques de France. Alors les mégalithes, on s'y est tout de même intéressé assez rapidement. Est-ce que parce qu'ils étaient en danger ?
Alors on s'y est intéressé assez tôt. Je crois que nous parlerons un tout petit peu de Mérimée, mais le principal apport de Mérimée en la matière, c'est d'avoir essayé d'alerter les pouvoirs publics au niveau national et au niveau local sur les problèmes du patrimoine de manière générale, et en particulier les mégalithes, puisque les différentes visites qu'a pu faire Mérimée un peu partout en France lui ont permis de constater que dans certaines régions, en particulier dans l'ouest de la France, bien évidemment, la situation était devenue dramatique entre deux de ces passages. Les mégalithes étaient transformés en phare, en route, les landes qui étaient défrichées entraînaient évidemment la disparition de ces pierres qui étaient bien encombrantes au milieu des champs. Et effectivement, Maury et Alexandre Bertrand vont avoir un rôle dans la Commission pour la topographie des Gaules, en particulier Alexandre Bertrand, puisque Alexandre Bertrand est quelqu'un qui est, j'allais dire, une grosse pointure, si vous me permettez l'expression. C'est quelqu'un de très haut niveau, qui a une véritable curiosité, une véritable capacité d'analyse, qui va vraiment marquer son époque, qui va s'intéresser à tout cela, qui arrivera à des conclusions, évidemment, qui lui sont personnelles. Il est un petit peu en rupture avec le milieu scientifique de l'époque, mais il va avoir un rôle déterminant, en particulier au Musée d'Antiquité Nationale, puisque ça va être le premier conservateur de cet établissement. Donc, effectivement, les mégalithes sont une espèce de fil rouge, en permanence, dans la défense du patrimoine antéhistorique, même si ces mégalithes ne sont pas compris comme on les comprend à l'heure actuelle, sont analysés de manière tout à fait différente. On parle d'antiquité celtique, et les antiquités celtiques vont à une époque rassembler aussi bien ces mégalithes que l'industrie lithique, que ce soit pierre polie ou pierre taillée, comme on le disait à l'époque, dans un grand ensemble un petit peu incohérent et assez proche du folklore, mais voilà, les mégalithes ont un rôle essentiel et vont être utilisés en particulier dans une affaire qui était célèbre autrefois, qui est celle de Carnac, et la disparition des aliments de Carnac, et la tentative initiée par l'État pour exproprier les quelques récalcitrants qui refusaient que l'on protège ces pierres tellement encombrantes. Puis finalement, l'État étant peu sûr lui-même de l'intérêt de la chose, a laissé finalement tomber. Et voilà, les mégalithes ont failli disparaître. Certains ont vraiment disparu et Carnac a été très longtemps en danger.
Alors, Prosper Mérimée, on va simplement ajouter qu'il était donc membre aussi de l'Académie des inscriptions et belles-lettres où il avait été élu en 1843. Alors, évidemment, il y a d'autres grandes figures. C'est l'abbé Breuil, mais on va consacrer toute une émission avec Arnaud Hurel à l'abbé Breuil. Donc, on vous renvoie à cette émission si vous vous intéressez à ce pape de la préhistoire. Il y a aussi Salomon Reinhardt, un petit mot sur l'un de ses frères Reinhardt. Ils étaient trois, mais celui-ci était plutôt penché sur la préhistoire.
Ah oui, alors évidemment, vous connaissez comme moi le surnom des trois frères, les frères Je sais tout.
Oui, oui.
Joseph, Salomon et Théodore. Ce sont des figures particulièrement marquantes du 19e siècle et même d'une bonne partie de la Troisième République. Ce sont des gens particulièrement brillants, qui se sont illustrés à la fois dans le domaine scientifique, mais également dans la politique. Le combat en faveur d'Alfred Dreyfus est évidemment marqué par la famille Reinhardt, mais les arts également. Je crois que la Villa Kyrillos
dépend
de l'Institut de France. Et c'est là on retrouve véritablement l'alliance à la fois du goût pour l'histoire classique et le goût pour les arts, puisqu'en confiant à Emmanuel Pontremoli cette ville-là, il y a une tentative de concordisme, si je puis dire, entre le présent et le passé. Mais Salomon Reinhardt est quelqu'un d'absolument formidable. D'ailleurs, je crois que l'année 2008, au titre des célébrations nationales, lui a conseillé une petite place, toute petite. J'espère que des travaux majeurs sortiront à cette occasion. Mais c'est quelqu'un qui a joué un rôle très très important. On a eu tendance pendant très longtemps de retenir que un ou deux faux pas de Salomon Reinhardt, la tiare de Saïta Fernès ou l'affaire de Glozel, mais c'était vraiment quelqu'un qui a œuvré. Ceux qui aiment les vieux livres connaissent ces livres d'initiation au latin, au grec, au français pour les enfants, mais on connaît également son engagement politique. C'est l'un des premiers actionnaires de l'Humanité. On connaît également ses livres sur la religion. ses attaques contre l'Église catholique, mais en même temps sa tentative d'interprétation de l'art pariétal à travers la religion. Donc voilà, c'est quelqu'un d'absolument passionnant et j'espère que l'année 2008 ne l'oubliera pas.
On essaiera. Arnaud Hurel, dans votre livre, je ne voudrais pas tomber dans l'anecdotique, mais on a l'impression tout de même que ces préhistoriens se querellent assez souvent. C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les datations. Quel était l'état de la recherche? Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, sans doute ne sont-ils pas tous d'accord. Mais là, j'avais l'impression en vous lisant qu'ils avaient quand même beaucoup de querelles les uns avec les autres.
Ils n'étaient pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. C'est le principe même de la science. La science, je crois, c'est se poser des questions, s'interroger sur les théories de ses collègues, mais s'interroger sur des faits et essayer de résoudre tous ces problèmes. Alors, il y a plusieurs manières, évidemment. À l'heure actuelle, c'est, on va dire, policé. C'est tout de même, on est dans un milieu à quasiment 100% fonction publique, que ce soit dans les universités, muséums ou au titre du ministère de la Culture. Donc, évidemment, les rapports sont tout à fait différents. Là, nous sommes dans un milieu d'amateurs. Alors, amateur, ça nécessiterait sans doute de définir ce terme d'amateur. Il y a un petit côté péjoratif à l'heure actuelle. L'amateur, je crois qu'il faut l'entendre comme quelqu'un qui consacre tout ou partie de son temps à une passion, en l'espèce, l'archéologie préhistorique. Évidemment, comme j'ai employé à dessein le terme de passion, qui dit passion dit parfois manque de recul, un investissement total, un investissement complet dans cette passion. Évidemment, ça provoque parfois quelques heurts. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est une science, enfin un ensemble de sciences qui progresse de manière tout à fait empirique. Donc, il y a très rapidement des écoles qui se dessinent, et ces écoles se dessinent sur des critères scientifiques, mais également sur des critères qui sont directement en phase avec la société de l'époque. Il vient à l'esprit de tout le monde, là, à l'heure actuelle, les problèmes entre évolutionnisme et créationnisme. Le problème existait de toute façon dès les premières réflexions sur la contemporanéité de l'homme avec des espèces disparues. On cite toujours l'exemple de Cuvier indiquant, écrivant qu'il n'y a pas d'homme fossile. On oublie de dire que Cuvier dit qu'il n'y a pas d'homme fossile parce qu'on ne lui a pas encore montré d'homme fossile. Mais il est évident que les convictions religieuses de Cuvier ont joué un rôle. Mais pour les préhistoriens, parfois, ça a joué un rôle tout à fait décisif. Cuvier était d'abord un scientifique et, d'un point de vue strictement humain, un croyant. Mais pour un certain nombre de scientifiques, la religion est en soi, d'un point de vue social, un obstacle ou quelque chose à combattre. Et la préhistoire va parfois être instrumentalisée. Mais on a la même chose avec le darwinisme. On va utiliser la science comme outil, comme vecteur de lutte anti-religieuse. Évidemment, lorsqu'il y a attaque, il y a riposte. Et les camps sont particulièrement marqués au XIXe siècle sur la question religieuse. Qui plus est parce que à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, l'Église catholique traverse une crise profonde, qui est la crise du modernisme. Absolument. Donc les camps sont d'autant plus tranchés et sont d'autant plus prêts à se combattre. Et puis, il y a ces écoles scientifiques qui sont un petit peu un mélange à la fois des grands clivages de la société et puis des grands clivages scientifiques. Et là, on le constate avec des gens comme Gabriel de Mortillet, qui est un matérialiste militant et qui a une vision de l'histoire humaine fondée sur la loi du progrès. Donc, de l'aspect le plus bestial jusqu'à cet être parfaitement évolué qui est nous-mêmes, bien évidemment. Donc, cette grille de lecture, il va l'utiliser, y compris pour analyser les pièces mises au jour, en particulier l'industrie lithique, et donc va établir une classification des temps passés en fonction de ses idées et de ce qu'il a découvert. Et cette école va être très dogmatique. Et lorsque la science va vraiment faire des progrès, que les découvertes vont être tellement nombreuses que l'on va pouvoir comparer, c'est même l'essence même de la pratique expérimentale, on va remettre en question cette école, et là le combat va être terrible. Et finalement, le problème de la réglementation des fouilles va se superposer à tout cela. Et il y a dessous un certain nombre de combats souterrains. Et c'est ce que ce livre essaie d'évoquer. Alors évidemment, il y a souvent des anecdotes, mais là, je vais vous trahir peut-être un secret de fabrication, c'est que lire des essais, je suis payé pour le faire, lire des essais pour mon travail, pour ma propre recherche, et bien souvent, il me tombe des mains. Parce qu'on peut, je crois, parler des choses sérieuses, sérieusement, mais également en abordant ce qui est essentiel en l'espèce. Le préhistorien travaille sur de l'homme, le matériau n'est pas neutre, et donc là on a affaire à des hommes, et donc on est obligé de tomber parfois dans l'anecdote, mais ça permet de se raccrocher au livre de temps en temps.
On retrouve Arnaud Hurel dans un très court instant.
J'ai deux amants. Il avait pour parrain le tsar Alexandre III et pour père le grand acteur Lucien Guitry. Sacha Guitry a conquis le public français sur scène et au grand écran. Canal Académie dédie une série d'émissions à Guitry, avec celui qu'il a connu personnellement, Alain Decaux, avec celui qui s'y réfère à toute occasion, Jean-Marie Rouard, avec celui qui admire son naturel, Félicien Marceau. Nous vous proposons de décrypter le cinéma de Sacha Guitry avec les commissaires de l'exposition de la Cinémathèque et d'analyser la figure de Napoléon dans ses œuvres. Canal Académie fête enfin Guitry et la comédie musicale Guitry et Yvonne Printemps. C'est sur Canal Académie en partenariat avec la Cinémathèque française.
Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. À vous penser. Deux.
Arnaud Hurel, votre livre « La France préhistorienne » de 1789 à 1941, justement j'aimerais bien qu'on parle de l'année 1941. Que s'est-il passé pour cette organisation de la recherche dans le domaine de la préhistoire en 1941?
C'est une année absolument décisive, mais je crois qu'il ne faut absolument pas la déconnecter d'un processus qui est beaucoup plus long, qui débute à la Révolution, qui est cette lente reconnaissance du patrimoine archéologique, et en particulier du patrimoine préhistorique, que ce soit les gisements ou les collections. 1941, évidemment, c'est la période de l'occupation, nous sommes à la période de révolution nationale est quasiment terminée, mais se pose un problème très concret, celui de l'accaparement des richesses du pays par l'occupant. C'est ce que Jérôme Carcopino dira.
Membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lui aussi.
Voilà. Et archéologue, donc archéologue. Connaissant parfaitement les limites de son travail et les contraintes qui pèsent sur les archéologues, il va, c'est ce qu'il dit dans ses mémoires, il va prendre conscience du danger qui pèse sur les statues, sur les peintures, mais également sur ce patrimoine archéologique et va lancer tout un processus de réflexion autour d'une loi réglementant l'archéologie. Comme je vous l'ai indiqué, Carcopino ne fait que reprendre un élément important qui a été très vif, en particulier à partir du début des années 1910-1920, qui est celui de la protection de ce patrimoine. Donc il est en fin de processus. Il y a une nécessité, hein, d'un point de vue factuel, qui est la présence de l'occupant, et puis d'un point de vue vraiment fondamental, qui est la question, est-ce qu'on doit, oui ou non, protéger ce patrimoine archéologique. Alors contrairement à ce que certains peuvent dire à l'heure actuelle, je crois que ce n'est pas l'influence du régime fasciste mussolinien, ce n'est pas essentiellement la présence des Allemands qui conditionne tout cela. Je me répète un petit peu, je crois que c'est vraiment un processus inéluctable. Le pays ne pouvait pas continuer à laisser faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, je l'évoquais tout à l'heure, ce sont les fouilles faites à la bonne franquette, mais ce sont également les ventes et les trafics de collections. Enfin, trafic est un mot tout à fait inapproprié, dans la mesure où les ventes, à l'étranger y compris, sont tout à fait autorisées. Oui. Donc, on voit partir des collections en grand nombre, et c'est un vrai problème. Donc, tout le monde en est conscient, et il y a à nouveau ces deux camps, entre ceux qui sont favorables à la liberté d'entreprendre, la liberté d'initiative, et en particulier à la liberté de disposer des collections, et puis ceux qui considèrent que c'est un patrimoine national et qu'en tant que tel, il doit être protégé. Donc, Carcopino va, si je puis dire, pouvoir profiter des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire l'occupation, le fait qu'il ne puisse pas y avoir, il n'y a pas de parlement, qu'il puisse débattre de sa loi, il ne peut pas y avoir de débat contradictoire, en particulier avec les sociétés savantes en charge de l'archéologie. Les archéologues sont soit morts, soit dans les stalags, soit séparés entre la zone libre et la zone occupée. Donc les circonstances vont lui permettre de faire passer cette loi aisément. Il y aura quelques préhistoriens qui vont être consultés, dont l'abbé Breuil, gens comme l'abbé Buissonni, qui vont être consultés à Vichy, dans le monde de préparer cette loi. Mais ça se fait tout seul, et finalement avec des documents qui étaient préparés depuis les années 1910.
Arnaud Hurel, j'aimerais qu'on dise aussi un mot sur le rôle important, j'ai cru le comprendre en lisant votre livre, des académies de province, au point qu'on s'est demandé à un moment donné si la réglementation de la préhistoire et de l'archéologie devait se faire au niveau de l'État ou est-ce qu'elle devait rester au niveau de la région?
Alors, il faut se souvenir que la Révolution avait fait disparaître toutes les académies savantes et que le consulat puis l'Empire se correspondent à des périodes de renaissance de ces académies qui sont d'autant plus efficace, d'autant plus combative, si je puis dire, et attire d'autant plus de monde qu'il y a des années de manque et qu'il y a une véritable renaissance scientifique et dans le pays. Donc elles sont très très actives et elles vont vraiment structurer le pays tout au long du 19e siècle. Elles vont être très actives, y compris dans le cadre de la protection du patrimoine, avec des gens comme Narcisse de Caumont en particulier, qui va d'abord au niveau de la Société archéologique de Normandie, puis au niveau de l'ensemble du pays, mener des opérations de sauvegarde du patrimoine, d'alerte des pouvoirs publics, mais également désigner lui-même des inspecteurs au titre de son association pour vérifier si tel ou tel monument n'est pas en danger, faire des inventaires, et voilà, bien implanté dans tout le pays. C'est d'autant plus aisé que l'État lui-même n'entend pas prendre la chose à son compte. Donc c'est une phase essentielle d'activité des sociétés savantes. En 1910, il y aura un projet de loi qui sera déposé pour réglementer les fouilles en préhistoire et en paléontologie. L'idée est simplement que le préhistorien déclare la fouille. C'est-à-dire pas un système d'autorisation préalable, mais je fais une fouille, je préviens les autorités que j'ai fait une fouille, je m'engage à les prévenir si je fais une découverte. Donc c'est un système assez simple. C'est l'émeute. C'est-à-dire que toutes les associations françaises se mobilisent.
Ne veulent surtout pas
cette intervention de l'État, cette autorisation, parce que ça voudrait dire que finalement, l'État va pouvoir quasiment contrôler les fouilles et que finalement, si quelqu'un fait des fouilles qui ne conviennent pas à tel ou tel professeur du muséum en particulier, on pourra lui interdire de poursuivre ses fouilles. Et donc, le scandale est important. Mais c'est le Touring Club de France qui, lui, a un rôle majeur dans la préservation des monuments du patrimoine, qui est finalement le détonateur de cette campagne. Et le feu va prendre de région en région et la Société préhistorique de France va être le vecteur de la contestation et va lancer une grande pétition nationale qui va recueillir des milliers de signatures et la quasi-totalité des sociétés savantes ayant pour objet, pour tout ou partie, l'archéologie, va rejoindre cette contestation. Finalement, le projet de loi va disparaître, on ne sait pas bien ce qu'il devient. Théodore Reynac, dont nous avons parlé tout à l'heure, est l'un des rapporteurs. Bon, on ne sait pas trop ce que ça devient, ça disparaît. Mais l'opposition est tellement forte, et puis il y a tellement d'autres sujets, on essaie encore de faire passer l'impôt sur le revenu, la loi sur l'impôt sur le revenu, c'est la énième tentative, donc vous voyez, des sujets beaucoup plus importants.
Beaucoup plus importants.
Donc, finalement, ça va s'oublier, mais les travaux sont faits, et finalement, les campagnes de presse qui ont eu lieu ont permis tout de même de dénoncer ce qui se passait sur le terrain. Et donc, l'état d'esprit, finalement, en particulier dans le grand public,
même évoluer.
Va évoluer. Et donc Carcopino va arriver, lui, en fin de processus.
Je comprends. Enfin, si vous voulez vous comprendre comment la France s'est organisée justement entre 1789 et 1941, ce lent processus d'organisation avec toutes ces querelles, ces revirements quelquefois, eh bien, je vous conseille de lire « La France préhistorienne » d'Arnaud Hurel, publié aux éditions CNRS. Et je me permets aussi de vous signaler qu'avec Arnaud Hurel, deux autres émissions existent dans la médiathèque de Canal Académie, une sur l'abbé Breuil et une sur l'Institut de paléontologie humaine, et que par ailleurs, plusieurs émissions avec des préhistoriens contemporains, Henri de Lumley, Yves Coppens et Philippe Taquet, par exemple, existent aussi dans la médiathèque de Canal Académie. Merci. Merci à Noël.
C'est moi qui vous remercie.